En réalité, quand je commence une phrase, je ne sais pas comment elle va se terminer. Et ça peut angoisser les gens quand on est dans les médias, quand on est à la télévision, quand on est en radio. Ils disent « Nom de Dieu, mais où ils s'embarquent ?» Et j'ai besoin de... Alors c'est peut-être mon côté d'origine arménienne, c'est-à-dire l'Orient en moi, qui fait qu'on n'attaque jamais une note directement. On lui tourne autour. Je dirais que c'est l'art de l'arabesque. C'est l'art de la circonvolution. C'est aussi une manière de capter l'auditeur. Et de le... C'est un peu chez Razade. Si je m'arrête de parler, je vais mourir. Donc il ne faut pas que je m'arrête de parler. Donc c'est pour ça que je fais des phrases très très longues. Et il y a toujours des gens qui sont en train de me dire, de faire des signes en disant « faut couper, faut couper, faut couper ». Et à ce moment-là, je leur dis « mais tu vois pas que je suis en train d'écouter la radio du cinéma ».
J'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir sur la radio du cinéma André Manoukian. Bonjour André.
Bonjour.
Alors André, on va parler du film Le Choix du pianiste. Je crois que c'est votre premier rôle au cinéma.
Oui.
Votre relation entre la musique et le cinéma, ça fait référence à quel film ?
J'ai fait la musique d'un long métrage qui s'appelle 4 étoiles de Christian Vincent. D'accord. Avec Isabelle Carré et José Garcia. J'ai fait Jean-Philippe, un beau film avec Johnny Hallyday, Fabrice Zucchini. J'ai fait un autre film qui s'appelait Les Ténors, enfin bref.
Donc ça a été votre première relation finalement avec le cinéma.
Au cinéma, oui.
D'accord. Donc suite à ça, vous avez eu un parcours audiovisuel que vous poursuivez d'ailleurs.
Oui.
Et puis, le cinéma a fait toc-toc.
D'abord la télévision.
La télévision.
Dans des séries.
Oui.
J'ai joué dans cette saison de Fais pas ci, fais pas ça. Mm-hmm. Mais je jouais souvent mon propre rôle.
Oui.
C'est pour ça qu'on m'appelait. En ce moment, je suis l'amant de Julie Depardieu dans une série qui s'appelle Alexandra L. Et je suis un psy qui fait des phrases.
C'est un téléfilm ou un film ?
C'est un téléfilm.
Un téléfilm, d'accord.
Et voilà, donc du coup, comme j'ai un peu une petite expérience de... J'allais dire, je fais plutôt des caméos. Eh ben, me voilà, pour une fois dans un film, en train de jouer un rôle qui, pour le coup, est assez loin de moi, puisque chef d'orchestre et pianiste, c'est pas du tout la même chose.
Comment on est venu à vous pour ce film ? Parce que...
Bah écoutez, il y a un instrument qui s'appelle le téléphone, on m'a appelé. Et j'ai répondu.
Donc...
Et Nelly, je la connaissais parce que j'avais fait un téléfilm pour elle
déjà. D'accord. Donc il y avait filiation un petit peu au départ.
Voilà.
D'accord. Et donc cette expérience du coup de chef d'orchestre, parlez-nous un petit peu de ce personnage quand même. Paul Paré, pardon, qui va être un petit peu une sorte de passeur pour le héros. Dans un premier temps.
Ça va être surtout le gars qui va lui offrir son premier job.
Dans l'histoire, en fait, le cheminement de l'histoire, puisqu'en fait, il y a une dimension, on va dire, de choix dans la vie de cet homme. Vous allez être un contributeur pour l'accompagner, l'aider, finalement. Enfin, l'aider, entre guillemets. Peut-être vous pouvez développer sur ça.
Alors, vous savez, vous êtes toujours, et moi-même, en quête de nouveaux talents. Quand tout d'un coup, un pianiste fulgurant arrive... et qui rompt un peu les codes, parce que c'est ça que le rôle du pianiste, c'est tout d'un coup quelqu'un qui arrive avec un son différent. Donc tout de suite, le chef le repère et lui dit « vous avez un truc unique, enfin voilà, continuez-le et votre carrière est toute lancée ». Donc en réalité, quand on met le pied à l'étrier à un musicien, on ne fait pas ça pour l'aider lui. On fait ça parce qu'on en a besoin. C'est presque égoïste, ça n'existe pas les actes d'altruisme de toute manière. Tout d'un coup, vous avez un nouveau talent qui débarque, vous en voulez, quoi,
bien
c'est
sûr,
tout.
Bien sûr.
Ensuite, la relation qu'ils vont avoir tous les deux, c'est que le chef d'orchestre, il est un peu, je dirais, il est tellement passionné par la musique qu'il est imperméable à tout ce qui se passe autour. Sauf que ce qui se passe autour, c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale.
Le nazisme, etc.
Ouais, et comme il a ses propres valeurs, et qu'il aime ni les communistes, ni évidemment, ni les fascistes, il va se retrouver, ça c'est une histoire vraie, il a vraiment existé.
D'accord.
À Monaco, il va prendre dans son orchestre tous les musiciens juifs qui n'avaient plus de boulot, qui étaient interdits de travailler en France. C'est un des rares films réussis, je le dis parce que j'ai un tout petit rôle dedans, sur la musique. Et c'est compliqué de faire des films sur la musique. Et on peut dire que les Français, ce n'est pas les spécialistes de ça. Les Américains y arrivent plus avec des gros artifices, on va dire, hollywoodiens qui sont toujours un petit peu les mêmes. Mais en France, en tout cas, il y avait Radou qui avait réussi avec l'orchestre, mais c'était plus une comédie. Là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est au cœur du problème. ça commence avec, avec l'enfant et son apprentissage de la musique, avec le père qui refuse, parce que voilà, ça se faisait pas pour l'éducation d'un petit garçon.
Oui, tout, ça ne correspondait pas aux standards
de réussite
sociale. Moi, j'ai vécu
ça. Mon père était content que je fasse de la musique, mais quand je lui ai dit que je voulais en faire mon métier, il était catastrophé. Et puis ensuite, comment on fait ?
Là, vous parlez de votre vie privée ?
Oui, oui, oui.
Ah, c'est amusant, cette relation.
Tout le monde l'a. Si vous avez des gosses et qu'ils vous disent « Papa, je vais faire musicien », vous imaginez le gouffre qui s'ouvre devant vous tout d'un coup. Parce que comment on fait pour réussir ? Donc, c'est tous ces problèmes-là sont posés, mais sont posés d'une manière hyper réelle, j'allais dire tellement naturelle. Ouais. Et puis ensuite, le rapport amoureux à la musique, c'est-à-dire comment il évoque la musique avec ses doigts simplement, comment... la musique, c'est un langage qui ne veut rien dire. Et les plus démunis, parfois, pour en parler, sont presque les musiciens. Il y en a qui vous disent, moi, je ne peux pas parler de musique, je préfère la jouer. C'est ce que dit Martha Argerich, par exemple, cette immense pianiste. En général, ceux qui parlent sont plutôt des musiciens frustrés, on va dire. Sauf Debussy, qui était à la fois critique et qui écrivait sous le pseudonyme de Monsieur Croche. Bref, c'est compliqué de parler de musique. On a moins de vocabulaire qu'un œnologue qui parle d'un pinard. Quand un œnologue, il vous dit, il vous fait goûter un vin, il vous dit, il y a du fruit, il y a des feuilles mortes, il y a des senteurs d'acacia, enfin... Il est long en bouche, il persiste, il y a un accord, on parle d'accord, on parle de nez, etc. Vous vous rendez compte ?
Oui.
Tout ce vocabulaire,
la sémantique est riche.
On en a beaucoup moins
oui,
en musique.
C'est clair, c'est clair.
Comment vous faites pour diriger un musicien ? C'est écrit la note. C'est une c'est ré noir pointé. Donc vous savez le ré, vous savez la durée. Maintenant vous pouvez même rajouter sur la partition fortissimo ou piano ou fort ou doux. Mais et comment vous faites pour expliquer l'intention ? Vous êtes obligé d'utiliser des métaphores. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est bien de voir des masterclass avec notamment Bernstein qui faisait ça pour les gosses, justement. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là, la justesse du film est prodigieuse et on voit que son réalisateur, Jacques, est un vrai passionné de musique. Il a fait beaucoup de documentaires sur la musique. Il voulait même faire un documentaire sur les jazzmen français, etc. Donc, et cette passion, sans utiliser de mots compliqués, elle est transmise à tout public. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est émouvant. Quoi.
Oui, c'est un message important, c'est qu'en fait, ce film, il est accessible finalement à tout le monde.
Ben, évidemment.
Et on le comprend très facilement, il n'y a pas d'aspect technique autour de la musique. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez eu une consultation particulière, vous, par rapport au réalisateur, sur le choix éditorial de la musique ? Au choix des musiques, des musiciens, etc.
Non, c'est un grand pianiste que je connais qui s'appelle Dimitri Naglish et avec qui j'ai fait une battle d'ailleurs, qui D'accord. est à la fois un pianiste classique et qui sait aussi improviser, donc qui est très ouvert. C'était lui le consultant musical et le compositeur de la musique de ce film qui est extrêmement réussi puisqu'on est dans la suite du concerto numéro 2 de Chopin et on tourne autour. Donc c'était un choix là aussi très judicieux. Moi, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai pris une coach pour m'apprendre à diriger parce que je ne savais pas du tout.
C'était une première expérience,
Exactement.
Vous n'aviez jamais fait ça.
Et c'est ça qui m'intéressait, c'est aussi pour ça que j'ai dit oui.
Ouais.
Je voulais avoir cette expérience-là.
Et alors, qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience de chef d'orchestre
C'est génial, ça m'a aidé parce que vous savez, quand vous êtes dans le jazz, vous prétendez à une certaine démocratie, vous êtes là, un quartet, que chacun s'exprime. Que chacun ait son solo.
Une sorte de partage.
Vos musiciens ne sont pas vos exécutants, ils sont vos pairs. On est dans un monde où on se considère plus à égal que cette hiérarchie d'un chef et d'un exécutant. Mais ça, c'est un petit peu faux, parce qu'en réalité, les musiciens sont là pour être au service d'eux. Que ce soit quand c'est Miles Davis et son quartet, bah, tout le monde est au garde à vous devant Miles Davis, mais ça ne se dit pas comme ça. Quand c'est Coltrane, c'est tout le monde est au... Puis ensuite, quand Bill Evans s'en va du groupe de Miles et qu'il crée son propre groupe, c'est lui le patron. Là, finalement, d'apprendre à diriger, ça vous donne une... Vous savez donner une direction aux musiciens. Et du coup, ils vous en remercient. Ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile de dire à quelqu'un « fais ça » que plutôt que de lui dire « Non, ouais, qu'est-ce que tu as proposé ? Non, pas ça. » T'aurais pas autre chose à me proposer? D'accord. Ah non, pas ça non plus, non, pas ça, non, pas ça. 10 fois non pour à la fin, ah oui. Vous voyez, c'est pénible pour tout le monde. D'accord. Tout d'un coup, si vous dites, c'est quoi, fais ça. C'est plus clair.
Plus clair.
Parce que le musicien, il est fort. Tout d'un coup, il a une carte qui est claire, une direction qui est claire, et il y va. Et du coup, c'est, voilà. Mais encore faut-il être capable et avoir cette vision. C'est ce qui m'a conforté un petit peu dans ce rôle d'endosser la queue de pie, le frac et la baguette d'un chef d'orchestre.
Alors André, il y a une tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander en fait de me citer votre... Vous êtes un cinéphile, vous adorez le cinéma ?
Bien sûr.
Bon, alors je vais vous demander en fait de me citer votre film préféré.
8,5, Fellini.
Donc ça c'est votre film culte, vous le regardez régulièrement ?
Ouais.
Votre musique préférée ?
Bah, c'est le musicien de ce film, Nino Rota.
Et votre réplique préférée ?
Ma réplique préférée, c'est... Je pourrais pas vous la donner en intégrale, mais c'est à la fin du premier Blade Runner, quand le réplicant va mourir, et qui sauve Harrison Ford. C'est-à-dire, il y a un combat qui est épique, Harrison Ford perd, et il est suspendu dans le vide, et le réplicant, contre toute attente,
le sauve.
Le sauve. Oui. Et Harrison Ford se dit, je me suis toujours demandé pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'au moment où lui allait perdre sa vie, il s'est rendu compte de la puissance de la vie. Je trouve que c'est une leçon magnifique. Et puis ensuite, vous avez cette scène où le comédien blond, sous la pluie, dit Roger j'ai Auer. Vu. Voilà. Roger
Auer. H-A-U-E-R.
C'est ça. Il dit j'ai vu tellement de choses belles, j'ai vu des choses que tu ne verras jamais, j'ai vu. Les deux soleils se lever sur Orion, j'ai vu. Et voilà, pour moi, on est dans presque... on touche pour le coup du mystère de la vie. Ouais. Du mystère de la vie, c'est la plus belle leçon de mystique qui soit, quoi.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Il est temps de mourir.
Au moment... où la vie quitte son corps parce qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils ont, une date de péremption, les pauvres, répliquants. Il a tellement aimé la vie à ce moment-là que c'est elle qui gagne, quoi, et qui sauve son ennemi mortel qui était venu pour le tuer.